BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans leur H. On va parler d'investissement responsable, on va parler de plan épargne retraite. Je reçois deux grands acteurs, en l'occurrence du capital investissement. L'une est une des stars du capital investissement responsable, Fanny Picard, la patronne d'Alter Equity. Et puis je recevrai Grégoire Santil, le fondateur de Nextage. Ensuite, on parlera du piège de cette chute incroyable de Carlos Ghosn. Bertil Bayard, ma confrère du Figaro, sera avec nous. Elle publie le premier livre d'une longue série justement sur cette affaire Ghosn. Est-ce que c'est vraiment un piège ou pas? Et dans un instant, c'est Alain Grisel, le patron de l'UDP, qui est déjà en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. On va parler micro-entrepreneur, ce fameux décret. Est-ce qu'il est fait pour vous faire plaisir? On parlera retraite, en l'occurrence, puisque maintenant, l'UDP, c'est aussi les professions libérales. Mais pour l'instant, place à l'actualité. Actualité apportée, comme tous les jours, par Thomas Asportas. Bonjour,
bonjour
Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Les Européens sont prêts à répondre aux menaces de sanctions américaines. Déclaration faite ce matin par Bruno Le Maire en réponse aux nouvelles taxes américaines qui ont été annoncées pour le 18 octobre. Des taxes, vous l'avez vu, qui concernent les importations d'avions, de vin, de fromage ou encore de café. La France ajoute que l'Europe continue de tendre la main aux États-Unis pour éviter cette nouvelle escalade de tarifs douaniers, mais qu'elle se tient prête, donc, avec les Européens, si les discussions échouent, à réagir par des sanctions dans le cadre de l'OMC. Et puis les discussions entre les Européens et les Britanniques, elles, semblent toujours dans l'impasse après les dernières propositions faites hier par Boris Johnson. Le groupe de pilotage du Brexit au Parlement européen a déclaré dans la matinée qu'il n'est absolument pas favorable au plan de Boris Johnson. Ces propositions ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles ne fournissent pas les garanties nécessaires pour l'Irlande. Le secrétaire britannique au Brexit, Stephen Barclay, lui, espère toujours pouvoir négocier avec les Européens sur la base de ces propositions. Et puis alors, on voit bien depuis deux jours que les marchés sont bousculés par les tensions commerciales et par cette question du Brexit. Eh bien, toutes ces incertitudes pèsent encore sur les derniers PMI européens qui sont publiés ce matin. L'activité dans le privé a frôlé la contraction en zone euro en septembre. On est au plus bas niveau de croissance depuis la mi-2013. En Allemagne, le secteur privé dans son ensemble est passé en contraction. C'est une première depuis avril 2013. Et en France, l'activité est restée en croissance, mais tout juste. Et elle a nettement ralenti entre les mois d'août et septembre. Sur le dossier des retraites, Emmanuel Macron lance ce soir à Rodez son grand débat citoyen. Un débat, vous en souvenez, qui devait avoir lieu jeudi dernier, mais qui a été annulé à la dernière minute après l'annonce du décès de Jacques Chirac. Le chef de l'État, Jean-Paul Delevoye, se rend donc à partir de 18h30 face à 500 Français pour déminer les points chauds de la réforme, le régime universel, l'âge pivot ou encore la durée de cotisation. Et puis Bruno Le Maire était ce matin dans les bureaux de Criteo pour travailler sur la question de l'intelligence artificielle. Et le ministre de l'économie annonce qu'il va céder la Française des Jeux d'ici quelques semaines. Une session prévue, vous le savez, dans le cadre de la loi Pacte. Et qui va permettre donc à la France d'injecter 1,5 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle. Dans l'actualité des entreprises, Thales a présenté il y a quelques minutes sa nouvelle feuille de route après l'intégration de Gemalto. Le groupe vise désormais entre 11,5% et 12% de marge opérationnelle contre 10,6% actuellement. Thales attend également entre 300 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires grâce à l'acquisition de Gemalto. H&M remonte la pente avec de très bons résultats au troisième trimestre. Les ventes ont progressé de 12%, le bénéfice opérationnel de 26%, et c'est notamment, nous dit H&M, grâce à ses ventes en ligne qui ont bondi de 30%. Habitat est mis en vente par sa maison mère, le groupe CAFOM. Cette annonce fait suite à un plan de redressement d'Habitat décidé il y a un an et qui s'est déjà traduit par des fermetures de magasins en Europe. Habitat compte aujourd'hui 27 magasins en France et 39 dans le monde, 700 salariés sont concernés. Et puis on va terminer ce journal avec un nouveau record, un record immobilier sur les Champs-Élysées. Groupama vient en effet de céder un immeuble pour 613 millions d'euros. C'est au numéro 79 de l'avenue qui va accueillir un magasin immense de Nike et le bureau de la marque. Si vous faites le calcul, 613 millions d'euros pour 7 700 mètres carrés, eh bien ça fait une opération quasiment à 80 000 euros le mètre carré sur les Champs. Le BFM Business, il est midi 4. Je vous donne le CAC 40 à la mi-journée qui se reprend un peu, qui gagne 0,69% après deux grosses séances de baisse. Et on est donc à 5 460 points. L'euro-dollar est stable. 1 euro s'échange pour 1,0955.
Merci Thomas. Vous retrouvez à 12h30 dans un instant. C'est Alain Grisel, donc le patron de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui est notre invité.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, j'ai beaucoup de questions à vous poser, Alain Grisel. Merci encore une fois d'être avec nous. Union des entreprises de proximité, les artisans, les professions libérales. Donc inutile de vous dire qu'on va parler de la réforme des retraites, avec en plus le grand débat qui reprend aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Mais d'abord, une question, parce qu'il y a eu tout d'un coup, est sorti au moment de la présentation du budget, ce décret, cette mesure autour des micro-entrepreneurs pour supprimer les avantages fiscaux qui avaient été mis en place il y a encore quelques mois. Et tout le monde dit, bah oui, mais il faut dire qu'il y a quand même des abus. abus qui ont été faits, etc., notamment vis-à-vis d'artisans. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de ce décret sur les micro-entrepreneurs, de vouloir supprimer les exonérations fiscales dont ils bénéficient.
Mais ce que l'UDP demande, comme d'ailleurs tous les entrepreneurs, tous les Français, c'est l'équité fiscale et sociale. C'est que pour le même métier, dans la même rue, dans le même village, celui qui est dans un régime fiscal dérogatoire n'est pas davantage qui fasse que la concurrence soit faussée. Mmh. Et donc, le fait de permettre à quelqu'un de se mettre à son compte, nous y sommes favorables.
Bah oui, c'est très bien.
Beaucoup. Il faut simplifier.
Puis il y a des gens qui le font du reste.
Naturellement, et c'est très bien. Il faut simplifier les formalités, il faut accompagner. Mais à un moment donné, il faut aussi que la concurrence soit normale et que les taxes soient les mêmes pour chacun.
C'est vous qui êtes à l'origine de ça ou c'est parce que c'est une mesure électoraliste ou alors pour vous faire plaisir dans le cadre de la réforme des retraites?
Oh, je crois pas qu'il y ait de relation de cause à effet avec les retraites, d'abord.
Je sais pas, non, mais là, c'est en tout cas, reconnaissez que c'est quand même une faveur qu'on vous fait rapport aux micro-entrepreneurs ont envie de créer leur entreprise.
Ça n'est pas une faveur qu'on nous fait, c'est qu'on revenir à une situation qui devrait, qui aurait dû toujours être identique, éviter une concurrence déloyale. Ensuite, il y a beaucoup de nos collègues qui sont artisans et qui utilisent ce régime.
Bah oui.
Donc, nous, il n'y a pas question qu'on aille à l'encontre de ces hommes et ces femmes. Ensuite, il y a quand même...
En l'occurrence, c'est le cas.
Une perte. Non, mais il y a une perte pour l'État qui est quand même considérable. Mmh. On évoque 600, 800 millions d'euros. Et à partir du moment où l'État nous dit qu'il faut faire les économies, il est particulier qu'il donne des avantages spécifique à une petite partie des entreprises.
Parce que ça crée la création d'entreprise, ça va dans le sens de la loi Pacte, si cher à Bruno Le Maire.
Oui, mais c'est pour ça que nous y sommes favorables, à la création d'entreprise. Et dans le projet du gouvernement, il est toujours question de laisser une année d'exonération. Mmh. C'est seulement après la première année qu'il y aurait une diminution des réductions existantes.
Alors, en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas complètement gagné parce que le décret, devant le tollé général, a été décalé. Ou on vous a assuré qu'il allait être promulgué.
Tollé général est peut-être un peu exagéré par rapport à ce qu'on entend. Mmh. Il y a quelques personnes qui se mobilisent, qui se disent représentants.
La preuve, c'est que on a demandé, Emmanuel Macron a demandé de Édouard Philippe de décaler le décret.
Non, ils ont souhaité qu'on puisse regarder de quelle manière ils allaient se mettre en place.
Oui.
Puisqu'il y a plusieurs solutions possibles. Donc nous, on est prêts naturellement à regarder, à participer à cet échange, sans aucun problème.
Qu'est-ce que vous demandez, vous? Vous demandez la suppression de ces exonérations fiscales les trois premières années. Qu'est-ce que vous demandez, Alain Griset?
Nous, ce qu'on demande, c'est une équité de traitement.
Oui, mais donc ça va ouf.
Oui, mais si demain matin, le gouvernement nous dit que l'ensemble des entreprises artisanales, commerciales, libérales, ne payent plus de taxes, on est d'accord?
Les trois premières années?
On est d'accord.
D'accord.
Non mais si tout le monde, quel que soit le régime fiscal et social, et dans l'absolu, si on nous dit vous payez jamais plus de TVA, on sera d'accord. Le sujet, c'est de savoir si dans la même activité, le même métier, on est traité de la même façon. Dans une économie libérale, il faut des règles.
Sinon, ça concerne combien de personnes? Enfin, il y a combien de personnes qui font concurrence à vos artisans?
Non mais aujourd'hui, il y a des chiffres qui amènent à peu près un million et demi de personnes qui ont choisi ce régime de la micro. Dans ces personnes-là, il faut faire une distinction entre les activités principales, celui qui fait que ça, et l'activité secondaire. L'activité secondaire n'est pas un sujet proprement dit. Ça reste des sommes extrêmement marginales.
Oui, parce qu'en plus, c'est très limité sur le plan micro-entrepreneur. C'est quoi, c'est 27 000 euros?
Non, pas du tout. C'est 70 000 euros.
70 000 euros.
Ce qui fait quand même déjà des sommes qui ne sont pas négligeables. Bon. Donc, ceux qui sont en activité principale dans ce régime-là sont naturellement dans une situation où ils sont face à des entreprises existantes et qui ont des charges courantes dans le régime classique. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est une équité de traitement. À partir du moment où une entreprise exerce le même métier, elle doit payer les mêmes cotisations. Et là-dessus, il y a unanimité dans les entrepreneurs sur ce sujet.
Donc pour vous, il n'y a aucun doute, le décret va être promulgué?
Il faudrait, absolument. Ou alors, il n'y a plus rien à y comprendre. Vous savez, dans n'importe quelle partie de l'économie, il n'y a pas possibilité d'exercer correctement si la concurrence n'est pas égalitaire.
À ce moment-là, j'avais dit que les artisans n'ont qu'à prendre ce statut de micro-entrepreneur. Ben non, parce que ce n'est pas possible.
Vous savez bien que ce n'est pas possible, madame.
Oui, oui.
C'est bien, si c'était possible. Encore une fois, si on nous disait qu'on pouvait ne pas payer de cotisation, on serait d'accord. Mais d'un côté, on vous dit, vous devez payer des cotisations, de la TVA. La TVA était citée en cause.
Oui,
quand un consommateur... vous avez une image sur les carreleurs. Un consommateur fait un devis pour mettre du carrelage. D'un côté, il y a 20% de TVA, d'un côté, il n'y en a pas. Le réflexe naturel est de dire, je prends celui qui a 20% moins cher. Et uniquement pour une mesure dérogatoire. Oui. C'est pas comme ça que nous considérons que l'économie doit fonctionner.
Sur la fraude à la rénovation, vous avez vu, il y a un papier du Figaro, du Parisien en l'occurrence, qui dit que donc la rénovation énergétique, on en parle beaucoup. Il y a cette possibilité. Enfin, certains disent, moi, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais que pour 1 euro, on peut vous changer toute la protection de votre toit. Il y a beaucoup d'abus. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des arnaques? Ce sont vos adhérents?
Nous avons à plusieurs reprises indiqué que la façon dont c'était mis en œuvre, souvent, n'amenait pas une bonne information du consommateur. Parce qu'en réalité, ça ne coûte pas 1 euro.
Bien sûr.
Ça coûte 1 euro parce qu'on déduit les aides et les soutiens. Bon. Et beaucoup, ou en tout cas quelques-uns, ont vendu ça comme étant 1 euro. Mm-hmm. Et en réalité, quelquefois, ce n'était pas toujours fait par des artisans dans de bonnes conditions. Bon, et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de la clarté, une bonne information. Le gouvernement
dit... Ça veut dire quoi, la clarté, une bonne transformation? Ça veut dire quoi, concrètement?
Qu'on connaisse
vos adhérents?
Qu'on connaisse le vrai prix.
D'accord.
Combien ça coûte vraiment?
Ouais.
Et combien le consommateur peut bénéficier éventuellement de soutien de l'État? Bon, le gouvernement nous dit, on va simplifier la procédure. Nous, on y est favorable. Toute la complexité... Ouais. Pour nous, est toujours un problème. Donc, simplifier, on y est d'accord. Là où il y a une difficulté actuellement, c'est qu'ils disent on va simplifier, mais on va limiter les soutiens uniquement à ceux qui ont le moins de revenus. Bon, pourquoi pas? Mais on sait bien que la plupart des travaux faits de rénovation sont faits à 70% par des personnes qui vont plus avoir la possibilité d'avoir ce soutien. Et donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'ils risquent d'avoir une perte importante de travaux sur la rénovation énergétique, il ne va plus se faire.
Ouais. Est-ce que vous avez, dans le cadre de ces rénovations, on parle de la suppression du CITE, transformé en une prime, notamment pour les ménages
les
plus modestes. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Et en même temps, on entend toutes les entreprises de rénovation qui disent ça va être une catastrophe pour notre activité.
Oui, parce que ces ménages modestes, il faut les aider naturellement. Mais ce n'est pas eux qui, globalement, en volume... utilisent le plus
CITE.
Ouais. Et naturellement, c'est pas eux, donc ils font pas travailler les entreprises. Donc oui, à la simplification, mais sur un panel de population plus important pour qu'en réalité, les travaux se fassent.
Oui, donc là, vous avez, je ne sais pas, vous faites quoi à la grise? On a l'impression que vous regardez un peu passer les trains, là. J'imagine que vous passez pas les... Vous êtes très actif, quand même, non?
Ce n'est pas trop l'habitude de la maison
mais
de regarder
laisser
passer les trains.
Oui, oui.
On a naturellement alerté le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, le Premier ministre et le Parlement, puisqu'on rentre dans la discussion parlementaire. Et naturellement, nous travaillons avec les parlementaires pour amender la proposition du gouvernement pour réintégrer plus de familles pour qu'au bout du compte, les travaux soient réellement réalisés.
D'accord, donc c'est dans le cadre de la discussion budgétaire de ce budget, vous pensez qu'il y a des amendements qui vont passer.
Il y a des marges possibles.
Ouais.
Il y a des marges possibles. Si vraiment le gouvernement entend dépenser l'argent prévu pour la rénovation énergétique, il faut qu'il étende la possibilité à plus de monde de pouvoir en bénéficier.
Oui. Aujourd'hui, l'impact que ça peut avoir, la suppression de CITE, vous l'avez chiffré à l'UDP?
En tout cas, nos collègues du bâtiment à la CAPEB, pour eux, considèrent que c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont en cause. À une période compliquée, parce que vous savez qu'on a vécu de longues années...
CAPEB, c'est les PME du bâtiment, quoi, les artisans du bâtiment.
Voilà, les artisans du bâtiment. On a vécu de longues périodes difficiles dans le bâtiment. C'est vrai que depuis une année, les choses avaient tendance à remonter. Là, ça a été dit tout à l'heure, la croissance a plutôt tendance à se tasser. S'il y a des mesures qui viennent en plus aggraver cette croissance qui diminue, ça ne va pas être bon. Et dans nos entreprises, les effets sont tout de suite immédiats. Quand il y a du travail, on embauche. Quand il n'y a plus de travail, malheureusement, l'embauche ne peut pas continuer à se développer. Et donc, c'est la perte d'emploi.
Mais pour l'instant, l'économie, elle se tient à peu près. On est d'accord? Enfin, pour vous, en tout cas, ce que vous observez,
globalement,
les artisans, globalement, c'est plutôt résilient.
Artisans, commerçants, professions libérales, une augmentation d'activité moyenne de 1,5% sur 12 mois.
Oui, donc c'est comme la croissance française, donc ça va un petit peu mieux, donc ça va...
Après de longues années difficiles, donc c'est plutôt bien, et on le voit d'ailleurs, parce que une des préoccupations aujourd'hui de nos entreprises, c'est la difficulté de recrutement.
C'est la question exactement que j'allais vous poser, parce que je recevais Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, qui disait ça nous coûte à peu près les difficultés de recrutement 1% du PIB, ce que je trouve énorme. Mais vous vous dites que pour vous, en tous les cas, c'est très pénalisant.
C'est très pénalisant. Une entreprise qui a 2, 3, 4 salariés qui veut en recruter un ou deux, si elle ne peut pas recruter, elle ne peut pas faire les travaux. Elle ne peut pas répondre aux besoins du consommateur. Et donc, elle restreint sa capacité de développement. Et donc, naturellement, ça peut avoir une incidence très forte sur la croissance.
Oui. On dit un mot sur les retraites quand même, parce que donc, le grand débat, ça recommence aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Pour vous, il y a les artisans, et puis il y a aussi dans l'UDP, maintenant, il y a aussi les professions libérales. Le syndicat qui s'appelait UNAPL, maintenant, a été fondu dans l'UDP. Pour eux, c'est le principal obstacle, vous pensez, à cette réforme des retraites ?
Donc l'UNAPL reste une APL, mais fait partie de la grande famille de l'entreprise de proximité. Je pense que le gouvernement doit regarder avec beaucoup d'attention le secteur des indépendants. Parce que le secteur des indépendants, d'abord, c'est 2 800 000 entreprises, d'abord. Et il y a une diversité aujourd'hui de situations qui peut, à un moment donné, poser beaucoup, beaucoup de problèmes pour la réforme des retraites. En gros, la réforme des retraites, il y a les régimes spéciaux, qui peut poser des difficultés, mais il y a aussi les indépendants. Je vais prendre 3 chiffres. Nous avons les infirmières, 14% de cotisation actuellement.
Oui.
Les artisans, 24-75. Les médecins, 36. Et on nous dit qu'il faut attirer à 28.
Oui.
Donc, vous voyez quand même que là, il y a un grand écart. Et à l'UDP, on a une diversité de professions, de situations, qui nécessitent, et en tout cas, Jean-Paul Delevoye, là, s'y engager, tant mieux, à ce qu'il y ait un travail fait profession par profession pour regarder si on aboutit à la demande de l'UDP qui est très claire. Il n'y a pas question pour nous d'avoir 1 euro de cotisation à payer en plus.
D'accord, ça on a compris. Oui, ça, c'est le point clé. Et là, vous êtes un peu entendu ?
À dire vrai.
Personne n'est vraiment complètement entendu.
Mais Jean-Paul Delevoye, parce que naturellement, après, derrière, il y aura le projet de loi.
Oui. Hein,
mais Jean-Paul Delevoye, dans les échanges qu'on a eus, a pris en considération nos demandes, l'a exprimé à plusieurs reprises. La semaine dernière, il est venu s'exprimer devant nos représentants. Et en tout cas, en ce qui le concerne, je pense qu'il a bien intégré nos demandes.
Merci beaucoup, Alain Griset, donc le patron de l'UDP, qui espère bien que ce décret sur le micro-entrepreneur, question de justice, vous dites, revienne sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera du piège, cette incroyable affaire Ghosn. Bertil Bayer, ma consoeur du Figaro, sera avec nous. Elle est la première d'une longue série à écrire sur cette affaire de Carlos Ghosn.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est ma consoeur du Figaro, Bertil Bayer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez publié le premier, on va dire, d'une longue série qui s'apprête à sortir sur l'affaire Ghosn. Il y a combien de pages ? Il y a 350 pages. Il faut dire qu'on a presque envie de continuer, mais je pense que le tome 2 est en préparation. Le piège, un livre que vous publiez avec Emmanuel Egloff, enquête sur la chute de Carlos Ghosn, et c'est publié aux éditions Kero. J'ai envie de dire pourquoi cette affaire nous passionne tous ? Ici, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, sur BFM Business, mais ça, on a bien vu, ça passionne absolument tout le monde.
Bon, c'est une affaire qui a été extraordinairement marquante. Elle passionne pour... Il y a plusieurs raisons à ça. Un, elle concerne un secteur, l'automobile, qui est un secteur dont on sait qu'il éveille toujours un peu les passions, plus qu'aucun autre secteur que vous et moi, on peut suivre. On a un personnage, Carlos Ghosn, qui est un personnage absolument hors norme, et qui donc lui aussi a cristallisé énormément à la fois d'admiration et de détestation
et de
pendant toute sa carrière.
Oui.
Ensuite, on a une affaire qui est internationale, qui est profondément une affaire de la mondialisation actuelle, donc elle révèle énormément de choses sur les relations entre les entreprises, celles qu'elles peuvent exister aujourd'hui. C'est une affaire dans laquelle il y a énormément d'argent en jeu, ça aide toujours à rendre les choses un petit peu plus passionnelles.
Mais non, finalement, il n'y a pas énormément d'argent. Il n'y a pas énormément d'argent à l'aune de la mondialisation des enjeux de Renault, etc. Il n'y a pas assez.
Si on parle de l'argent qu'on reproche à Carlos Ghosn, enfin, selon Nissan aujourd'hui, il commence à arriver à des additions qui arrivent à 300 millions d'euros, donc on n'est plus tout à fait dans la quantité négligeable. Et puis il y a l'argent au sens où ce sont deux entreprises avec des masses de chiffre d'affaires, de cash flow, etc., qui sont absolument colossal. Et dernière chose, évidemment, surtout d'un point de vue français, on a l'implication des pouvoirs publics dans ces affaires, et donc de l'État français chez Renault, puisque l'État est actionnaire de Renault.
Alors justement, vous dénouez bien les fils de tout ça, Bertil. Vous dites le piège. C'est donc un piège qui a été tendu à Carlos Ghosn.
Alors entendons-nous sur le mot piège.
Ah, oui.
ça n'est pas une machination, c'est-à-dire que ça n'a pas été une affaire totalement fabriquée. Au départ, on a des comportements de Carlos Ghosn qui sont certainement répréhensibles du point de vue de Nissan et qui auraient certainement justifié dans une entreprise classique, on va dire, que Carlos Ghosn, à un moment ou à un autre, soit débarqué par son conseil d'administration chez Nissan. Si le conseil d'administration de Nissan avait fonctionné correctement, c'est certainement
mais
ce qui se serait passé.
Pourquoi pas oui, pourquoi, attendez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la question des rémunérations, mais oui. La rémunération, lui, il dit, mais c'est voilà, c'est les avocats de Nissan qui m'ont dit qu'il fallait faire comme ça. Et du reste, Hiroto Saikawa a fait aussi à peu près la même chose, hein, la patronne de Nissan. Qu'est-ce qu'on lui reproche vraiment ?
Alors, il y a un moment où la justice dira, il faut faire attention entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui est éthiquement, moralement répréhensible aux yeux du code de conduite d'une entreprise, et puis il y a ce qui sera jugé en justice comme étant non légal. Il y a objectivement une confusion des genres entre le public et le privé, entre Carlos Ghosn et ses entreprises, qui est manifeste. Et on a une tendance, j'allais dire une forme de dérive au fur et à mesure des années, puisque ça fait 20 ans de mandat chez Nissan, ce qui est souvent l'occasion de dérives, surtout dans des entreprises où les structures de contrôle ne fonctionnent pas bien. Voilà. Ensuite, il y a évidemment les dossiers qui sont les plus troublants s'ils sont avérés, qui là s'apparentent à du détournement de fonds, enfin l'enrichissement personnel. Et là, à nouveau, il faudra voir ce que la justice japonaise trouve effectivement sur ce plan-là, qui n'était pas mis au jour au moment où Carlos Ghosn a été arrêté. C'est-à-dire ce qu'on a pu dire sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient, le cas échéant selon Nissan, et selon surtout les procureurs, ça n'existait pas au moment où Carlos Ghosn est arrêté. Donc il n'est pas arrêté pour ça, il est arrêté effectivement uniquement sur les questions de rémunération et sur cette quête manifestement assez obsessionnelle chez Carlos Ghosn de façon de rattraper l'écart de rémunération qu'il sépare à la fois de ses pairs et l'écart qui existe depuis que au Japon les rémunérations sont publiques, donc depuis 2010, et à ce moment-là, il a divisé sa rémunération par deux. On peut évidemment supposer qu'un homme comme Carlos Ghosn ne peut pas se satisfaire d'une rémunération divisée par deux.
Est-ce que vous croyez quand même à une machination, pardon?
Voilà, oui, on va revenir peut-être la partie sur le piège. Le piège parce qu'il y a une opération méthodique qui a été organisée pour sortir Carlos Ghosn de chez Nissan à l'époque. Ça, c'est tout à fait évident. La façon dont l'enquête a été menée à l'intérieur de Nissan et la façon dont ça se produit le 19 novembre quand il est arrêté et quand il est sorti de chez Nissan révèle quelque chose de très organisé, très méthodique, oui.
Oui, notamment la part de Harinada, qui était un personnage qui comptait pas du tout, du moins à ses yeux, et qui, en fait, a complètement...
Un bras droit, un homme de l'ombre chez Nissan qui, clairement, a joué un rôle très important, qui a signé un plaidé coupable avec la justice japonaise et qui a aidé à rassembler tous les éléments qui ont été mis dans le dossier de Nissan à l'encontre de Carlos Ghosn.
Vous avez suivi cette affaire avec Emmanuel Egloff, Paul Figaro. Est-ce qu'il y a une machination ? Est-ce que c'est une machination, notamment, par exemple, pour les Japonais, pour reprendre le contrôle de Nissan ? Un complot.
Très clairement, le sort de Carlos Ghosn n'est pas le seul enjeu qui a motivé cette affaire. Et on a un enjeu de pouvoir au sein de l'alliance Renault-Nissan qui est très clair. Nissan est une entreprise donc dont Renault a pris 40% du capital, 43% du capital aujourd'hui en 1999, et sur laquelle Renault a finalement assez peu de pouvoir. Et ce seul pouvoir, le contrôle de Renault depuis 20 ans sur Nissan, il est finalement essentiellement exercé par Carlos Ghosn. Ça a été conçu comme ça pour ne pas froisser les Japonais à l'époque. Renault, le conseil d'administration de Renault a laissé faire de façon à ce que cette alliance puisse fonctionner. Mais Carlos Ghosn était l'élément qu'on a mis à la tête de tout ça. Et donc faire sortir Carlos Ghosn de l'équation, c'est évidemment une façon pour Nissan de reprendre son autonomie, de reprendre de l'indépendance et de revenir sur une situation qui est devenue insupportable pour Nissan, qui est que Nissan, devenu beaucoup plus gros que Renault, ne peut pas accepter d'être considéré comme, entre guillemets, une filiale de Renault.
Oui, il y a une phrase que vous citez qu'aurait dit Carlos Ghosn, c'est quand on rate sa sortie, c'est aussi triste que de ne pas réussir sa mission. Là, pour le coup, on va voir que pour lui, il a plutôt raté sa sortie. Le moins qu'on puisse dire.
Hein. Il avait beaucoup travaillé à réussir sa sortie. Il voulait réussir sa sortie en réalisant cette opération de rapprochement entre Renault et Nissan qui aurait permis à l'alliance de lui survivre. On l'a empêché clairement d'aller jusqu'à cette phase ultime qui était à la fois voulue par lui, ça n'a pas toujours été le cas, et voulu par l'État français actionnaire, qui en espérait aussi à la fois une consolidation de cette alliance et une revalorisation de la valeur de sa participation dans Renault.
Rapidement, on va revenir là-dessus, parce que il y a juste un point intéressant dans votre livre, enfin qu'on se voit, finalement, c'était quand même presque un vrai japonais, dans le sens Carlos Ghosn, parce que vous parlez de sa fille qui s'est mariée là-bas, sur une île où il n'y a jamais eu aucun mariage, qui vit là-bas. Enfin, il y a une vraie implication de ses enfants, vous parlez, ils ont un WhatsApp qui s'appelle The Ghosn...
C'est Game of Ghosn. WhatsApp, donc
WhatsApp familial.
Pour le coup.
Donc il y a un côté très familial et imbriqué quand même au Japon.
Effectivement. Donc il est arrivé en 99 et il en est plus. Il est resté à la tête de Nissan pendant près de 20 ans, pendant 19 ans. Donc ça a créé évidemment un attachement pour lui à ce pays. Cela dit, on l'a bien vu, il n'a pas appris le japonais ou en tout cas il a appris un peu de japonais courant, mais il n'a pas fait l'investissement. Ouais. Il a considéré que c'était trop chronophage d'apprendre le japonais en tant que tel. Et puis lui-même se définit comme un citoyen du monde, donc. Japonais au Japon, américain aux États-Unis, français en France, libanais au Liban, etc. Il y a un attachement, mais il était moins japonais qu'on le pensait. Par rapport à l'image qu'on pouvait en avoir jusqu'à cette affaire, je pense qu'il était moins japonais qu'on le pensait.
En un mot, Bertil Bayer, maintenant, il y a quand même la responsabilité de l'État, le rôle d'Emmanuel Macron, le rôle d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. On peut dire qu'il a quand même été lâché un peu en race campagne, mais peut-être l'avait-il cherché avant.
Oui.
Vous avez une minute pour nous raconter ça.
La relation de Carlos Ghosn avec l'État a toujours été détestable. Et on a effectivement un épisode qui remonte à 2015 qui mettait en scène Alexis Kohler, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui a été une tentative de reprendre le contrôle par l'État actionnaire sur Renault et à l'encontre de Carlos Ghosn. Cet épisode a laissé des traces. Il a laissé des traces dans les relations entre les hommes. Entreprises, puisque ce coup de force d'Emmanuel Macron à l'époque avait été très mal vécu par Nissan, qui a certainement depuis eu d'autant plus envie de prendre ses distances vis-à-vis de Renault.
C'est le point de départ.
Ça a été un événement absolument marquant dans l'affaire, oui.
Maintenant, deuxième tome, ça sera sur quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez.
À Paris.
En conclusion.
Il y a deux sujets. Il y a un, ce qui va arriver à Carlos Ghosn, et donc on verra s'il y a procès, a priori, à partir du printemps prochain. Et puis, il y a l'affaire des deux entreprises. La première étape, c'est ce mois-ci, le remplacement de Nissan. Et donc là, on verra si, avec le nouveau dirigeant de Nissan, on prend une option plutôt de réconciliation avec Renault, ou au contraire, est-ce que ça confirme l'envie d'indépendance de Nissan.
Oui, Jean-Dominique Sénard qui a auditionné justement les trois candidats qui existent aujourd'hui.
On verra si c'est pas un quatrième qui sort du chapeau.
On ne sait jamais, évidemment. Merci beaucoup. Bravo,
merci
le
à vous.
Piège. Enquête sur la chute de Carlos Ghosn, donc avec Emmanuel Egloff, et c'est donc aux éditions qui remercie Bertil Bayer d'avoir été avec nous. Dans un instant, allez, on parle du capital investissement, d'investissement responsable. On parle aussi du plan épargne retraite avec Fanny Picard et Grégoire Santil. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nos invités, en l'occurrence, Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être là. Fanny Picard, vous êtes une des pionnières de l'investissement responsable. Vous nous direz, c'est tous ces beaux discours qu'on entend, est-ce que finalement ça se traduit avec quelque chose? Vous nous direz ça dans un instant, j'ai quelques doutes, je reconnais. Et Grégoire Santil, qui est le patron fondateur de Nextage, bonsoir. Bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là. Vous, Nextage, donc, plateforme d'investissement cotée, des rares cotées, pas toujours évident. Il faut le dire, parce que justement, il n'y a pas forcément des gens qui vous suivent. Je vous poserai certainement cette question. Et puis, vous dites qu'il faut maintenant préparer efficacement sa retraite. Et on peut le faire grâce à la loi Pacte. Vous avez beaucoup participé à l'élaboration de la loi Pacte. Et puis, au plan d'épargne retraite. Commencez peut-être par Fanny Picard. Est-ce qu'on est vraiment en train de basculer vers quelque chose de responsable, des investissements responsables, transformation écologique, c'est du sérieux ou pas du tout?
En tout cas, il y a une prise de conscience aujourd'hui à l'échelle mondiale des enjeux du dérèglement climatique et des autres enjeux environnementaux, notamment des problèmes de biodiversité, mais aussi d'épuisement des ressources, d'accès à l'eau, etc. Et ça se traduit par un certain nombre de déclarations à l'échelle de grandes entreprises. Vous avez vu, là, au dernier sommet de New York, plus de 80 grands groupes ont pris l'engagement de faire en sorte que leur entreprise s'inscrive dans une trajectoire conforme avec une élévation du climat seulement à hauteur de 1,5 ou 2 degrés à la fin du siècle.
Oui, d'accord, mais pardon, je vous interromps, il y en avait quand même 29 qui avaient signé la COP21, des tas d'accords formidables, ils étaient venus nous expliquer, c'est très bien. Je crois qu'il n'y en a que deux qui ont respecté la trajectoire qu'ils avaient écrite noir sur blanc.
Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des engagements, la question va être de savoir est-ce que ces engagements sont respectés, et puis à l'échelle des investisseurs, de la gestion d'actifs, il y a un vrai mouvement, en tout cas en termes de déclaration, vers l'ISR, ouais, vers des pratiques ESG beaucoup plus ancrées et rigoureuses. Ça va être intéressant de voir ce à quoi ça conduit, effectivement.
Ouais. Alter Equity, 70 millions d'euros.
Absolument.
Ouais. Oui, et vous investissez dans des histoires responsables.
Absolument. Notre objectif, c'est de soutenir l'intérêt général par l'investissement. Et concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes, d'une part. Donc ça, ce sont les métiers de l'éducation, de la culture. Voilà, de la culture, de la santé, du bien-être, des services aux personnes, de l'accès à l'emploi, ou sur l'environnement, en proposant des réponses à ces grands enjeux environnementaux. Et en outre, nous leur demandons de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est un double niveau de responsabilité par l'activité et par leur pratique de gestion, le tout en recherchant le rendement financier le plus élevé possible pour nos souscripteurs.
En quoi ça peut marcher, Grégoire Santil? Ça marche chez vous, ça, ou pas? Parce qu'après tout, vous êtes des deux côtés. Hein,
Oui, mais la réponse est oui, ça marche. Je vous donnais des exemples. Nous, on a fait un fonds d'investissement autour de ce qu'on appelle toute la partie économie positive, parce qu'on pense que c'est une des vagues de fonds. Voilà, je prends un exemple, on avait investi dans Greenflex, qui passait de 60 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était ensuite racheté par Total, qui en a fait un des pivots, parce que c'était un des acteurs majeurs dans le domaine de la performance environnementale. On avait fait ça dans Metnex et Climpact sur la prévision météorologique. Donc ce sont des thématiques qui sont très intéressantes pour créer la valeur, et ce sont des vagues de fonds qui sont en train d'arriver et qu'on ne peut pas ne pas adresser. Deuxième dimension, c'est que l'investissement socialement responsable, je considère, alors on a signé depuis 2012 la charte de l'ONU, depuis 2008 on fait le Gaïa Index, mais sur le fond, la meilleure manière d'être socialement responsable, c'est de contribuer à créer des emplois. Et moi, les deux statistiques qui m'intéressent, c'est en moyenne, chaque entreprise dans laquelle on investit a accru ses effectifs de 61%. Mmh. L'année dernière, à fin juin, on était à plus 22% de croissance des effectifs des 62 entreprises qui constituent notre portefeuille. Voilà, c'est ça qui... C'est ça qui me paraît aussi...
Le plus important, ça.
Assez important, parce que la réalité, c'est qu'on est dans un pays où le chômage est encore beaucoup trop élevé, ouais, et en particulier dans des territoires quand on sort de Neuilly, Auteuil et Passy. Et donc, on est dans une logique où on s'aperçoit que c'est vachement important de redonner du sens dans les territoires, dans des PME, dans des entreprises de taille moyenne qui sont capables de redynamiser ce qui se passe sur le plan local. Ouais. Voilà.
Fanny Picard, il a raison quand même de mettre ça comme critère, notamment sur l'emploi, où vous dites c'est bien, mais c'est pas suffisant.
L'emploi, c'est absolument majeur. D'ailleurs, nous sommes très fiers parce que les entreprises de notre portefeuille ont, depuis notre investissement, créé plus de 900 emplois, ce qui est un record dans notre marché de l'investissement à impact. Et nous nous intéressons non seulement à des objectifs sociaux, et l'emploi est important, et l'emploi qualifié également dans des quartiers de politique de la ville. Nous nous intéressons aussi et fortement aux questions environnementales.
Oui, ça c'est un point important, bah, visiblement. En plus, c'est ce que des secteurs qui marchent. Enfin, on voit que c'est vraiment clé. J'en souviens Nicolas Dufour, que BPI France, du reste, qui investit, je crois, dans votre fonds, qui disait, pour nous, c'est essentiel, c'est là où ça se passe.
Absolument. Mais on voit bien que, de toute façon, il y a trois vagues. Il y a la vague technologique, il y a la vague environnementale, et puis il y a la vague de la santé intelligente qui est en train de redessiner plein de choses. Voilà. Et tout ça n'exclut pas du tout le fait d'être... responsable socialement et de respecter les critères ESG.
Voilà. Et alors, là, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être là aujourd'hui, c'est qu'on voit bien avec le plan d'épargne retraite, la loi PAC, comme je le disais, il y a une manière, alors je vous cite, vous voyez, Grégoire Santil, de reprendre le contrôle de son épargne long terme, mais qu'il y a des outils, des nouveaux outils qui sont en train de se mettre en place, avec derrière peut-être la BPI qui veut accélérer l'investissement dans des sociétés qui émergent ou des sociétés qui ont un impact positif. La grande difficulté, c'est de convaincre les Français maintenant, c'est de dire mon épargne, je ne la mets plus à l'assurance vie, je vais la mettre là-dedans.
Oui, mais Grégoire Santil. Sur le fond, les Français, ils épargnent beaucoup. C'est 14-15% de leur épargne. Et pour l'instant, l'épargne des Français, depuis 40 ans, elle s'est principalement investie soit dans des obligations qui rapportent de moins en moins. C'est tout l'enjeu des taux d'intérêt négatifs, qui est un enjeu majeur pour les Français, comme pour les banques, comme pour les assureurs. Et deuxième point, dans l'immobilier. Et du coup, leur épargne ne rapporte pas beaucoup. Et ceux qui investissent en actions dans notre économie, ce sont plutôt des investisseurs étrangers.
Ouais.
Et je crois que vous aviez un sujet il n'y a pas très longtemps sur l'enjeu de notre souveraineté économique qui vaut pour les très grandes entreprises comme pour les petites et les moyennes. Parce que quand on regarde, par exemple, les cinq grandes licornes françaises, vous prenez l'exemple...
L'essentiel
d'entre elles, les derniers tours sont faits de manière majoritaire par des très grands investisseurs anglo-saxons. Donc, ça n'a pas de sens de bâtir et développer un système si on ne reprend pas le contrôle de notre souveraineté. Ça vaut...
La question, culturellement, c'est comment convaincre des Français de mettre leur épargne, non pas dans un bas de laine, mais le mettre chez vous, chez vous.
Je vais partager une expérience très concrète qu'on avait fait sur la loi croissance, qui avait été votée en 2015. À l'époque, sur l'épargne salariale, on s'était dit, la clé, c'est 130 milliards d'euros, c'est de mettre en place de la gestion pilotée. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'épargne salariale, qui a une durée moyenne de 14 ans, était investi en actifs monétaires, en monétaire. Donc ça rapporte rien, et de moins en moins à chaque fois. Depuis qu'on a mis en place la gestion pilotée, la part la plus importante est maintenant investie en actions. Donc, l'enjeu du PER qui change toute la donne, parce que ça va permettre aux Français de dire, en plus de ma retraite par répartition, je peux mettre de l'épargne à long terme dans une logique de gestion pilotée. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'avoir lu tous les bouquins là-dessus, et qui va lui permettre à horizon de 25 ans, 30 ans, la duration moyenne c'est 25 ans, 30 ans, de mettre son épargne au travail de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus investie dans l'économie réelle, puisque la loi permet d'aller jusqu'à 50% investi en économie réelle. Et si vous avez un chiffre à retenir, c'est que aujourd'hui, quand vous investissez en capital investissement, vous faites un travail correct, vous avez en moyenne une performance nette de 10%. Aujourd'hui, le contrat en euros, vous êtes en moyenne à entre 1 et 1,5% à peine là-dessus. Sur 30 ans, ça fait des écarts qui sont considérables.
D'accord, donc c'est là où on peut convaincre.
Et en plus, on peut donner du sens. Parce que les Français, ils ont envie de voir, et c'était d'ailleurs un des enjeux du Grand Débat, et une des conclusions du Grand Débat, ils ont envie de voir des entreprises. Quand on investit à La Rochelle, quand on investit dans le Pays Basque ou à Strasbourg, ben les gens, ils sont contents de voir qu'il y a des entreprises du coin qui se développent et qui marchent.
Ouais. Moi, je pense que c'est donner du sens. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être là, Fanny Picard, parce que je pense que c'est important, c'est peut-être ça qui peut convaincre, en disant ça peut... Voilà, mon investissement, il peut jouer à la transition écologique, il peut permettre le développement de mon écosystème, que ce soit en région ou ailleurs, non ?
Absolument. Nous avons investi dans des entreprises comme par exemple Open Airlines, qui est une société qui a développé un logiciel d'aide à l'éco-pilotage des avions, et avec une autre entreprise de notre portefeuille, mais de façon beaucoup moins importante concernant la deuxième, elle a permis, depuis notre investissement, d'éviter l'émission, de réduire les émissions françaises de 1 million de tonnes. Chaque année, la France émet 450 millions de tonnes de CO2, donc réduire de 1 million, c'est absolument colossal à l'échelle d'une toute petite entreprise. Donc un impact environnemental très très important. On a investi dans une société qui s'appelle Wild Code School, qui forme en 5 mois des personnes pour devenir développeurs web. Il y a là 99% de retour à l'emploi chez des demandeurs d'emploi. Mm-hmm. Donc en investissant dans des fonds comme le nôtre, on est vraiment utile à ces territoires d'implantation, à l'environnement, aux personnes.
Et surtout, c'est que ce qui va dans vos sens, en l'occurrence, ce matin, je recevais Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, bien sûr, mais qui est aujourd'hui le président de la Fédération Bancaire Française. Et il disait, avec ces taux négatifs, de toute manière, c'est sûr qu'on va aller vers la taxation des dépôts, pas pour les petits dépôts de 1 000 à 2 000 euros, mais dès qu'on a un petit peu d'argent, on va être taxé. Donc, il faut complètement changer un peu notre logiciel. C'est là où ça peut...
Absolument, parce que, en fait, depuis 40 ans, on a fini par prendre en otage la capacité des Français à prendre des risques à long terme avec la philosophie de la gestion du risque et du principe de précaution qu'on a même été capable d'introduire dans notre Constitution, qui est une hérésie intellectuelle absolue. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que l'épargne des Français... L'épargne des Français leur rapporte de moins en moins.
Ouais.
Et qu'ils expriment très concrètement, dire, ben, moi, quand je suis à Bordeaux, quand je suis à Brest, quand je suis à Tours, moi, j'ai besoin de voir que mes enfants, ils partent pas, et ils restent, et qu'ils ont des emplois, et que les entreprises du coin, elles ne se ferment pas. Et donc, les taux négatifs, ça oblige tous les acteurs de la banque comme de l'assurance à se dire... Comment est-ce que je vais mettre de l'argent au travail qui rapporte plus aux épargnants et qui leur apporte plus? Parce que les taux négatifs, ça remet aussi en cause et leur rémunération et leur capacité à maintenir des ratios en termes de capitaux propres.
Oui, mais il y a un problème quand même, c'est de savoir, moi je suis français, même si à tort je n'écoute pas BFM Business, je ne sais pas forcément dans quelle entreprise il faut investir. Okay, on va me proposer des noms d'investissement, je ne sais même pas, je connais même pas les tenants et les aboutissants. Comment est-ce que je fais? Qui peut m'aider? Parce qu'il n'y a plus d'analystes. Vous le savez, vous êtes coté, vous, oui. Sur le marché réglementé d'Euronext. Difficile d'avoir des analystes qui vous suivent, d'avoir des banquiers qui sont derrière vous, qui sont capables de donner des informations. Il y a tout un système qui n'est pas encore, enfin, qui a été créé puis qui disparaît, qui réapparaît, mais qui n'est pas du tout suffisamment fort.
Alors, qui n'est pas suffisamment fort, c'est une des conclusions du rapport de Philippe Tibi qui a été remis au gouvernement sur l'enjeu de réorienter de l'épargne longue sur ce qui va permettre de faire émerger des champions. Donc, il y a toute une réflexion et sur le non-coté. Et sur le côté qui est développé à cet égard, il y a une première annonce qui a été faite par Emmanuel Macron à hauteur de 5 milliards d'euros.
Oui, mais...
et il y aura d'autres annonces qui seront faites aussi. Et on voit bien que l'enjeu, c'est de montrer qu'il faut reconstruire l'écosystème de ce qui est petit, ce qui est moyen. Ouais. Une entreprise moyenne du CAC 40, elle a 104 ans.
Ouais.
Une entreprise moyenne du Fortune 500 aux États-Unis, vous prenez les 5 premières, elles ont 20 ans.
Toutes les tentatives qui ont été faites, parce que Euronext se bouge beaucoup pour qu'il y ait des entreprises comme les vôtres. Vous avez été tentée par la cotation ou par Fanny Picard?
Oui, mais c'est assez compliqué de passer du private equity classique à la cotation. Grégoire a énormément de talent, donc il y est arrivé, mais...
Exactement. Et ben voilà, vous voyez, c'est très compliqué. Ça coûte cher.
Oui.
Ça coûte très cher, faut le reconnaître. Et puis après, il n'y a personne qui vous suit, donc personne ne va investir chez vous. Oui. Et on voit bien qu'elles sont délaissées. Je caricature un peu, mais à peine.
Personne ne vous suit, mais regardez, nous, avant de se créer, on avait 350 millions d'euros d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, en 2019, on a aujourd'hui près de 250 millions d'euros de capitaux propres et au total 4 milliards d'euros d'actifs.
Et ça, c'est grâce à la cotation?
Eh bien, ça nous a permis de... Ça, et bien sûr, donc ça marche parce que ça renforce la neutralité, ça vous permet de faire des opérations successives et surtout, ça permet de faire des choses à long terme. Je rappelle qu'en matière de retraite, la duration moyenne, c'est 24 ans. Et si vous savez, c'est Einstein qui avait rappelé ça. C'est la force des intérêts composés. Et ceux qui les comprennent, il avait même décrit ça comme la huitième merveille du
Einstein,
monde.
Surtout pas moi.
Comme la huitième merveille du monde. Ceux qui les comprennent les gagnent, et ceux qui ne les comprennent pas les payent. On a oublié en France, pourtant une bonne école de mathématiques, la vertu de l'investissement en fonds propres à long terme. C'est du bon sens paysan.
Et de ce point de vue,
la loi... ça vous a convaincu? Il faut peut-être revoir vos ambitions de vous faire coter.
Oui,
non, mais... Et puis par rapport aux entreprises où vous investissez, bien sûr.
Oui, je pense que la loi, ce que je voulais dire en modifiant sur le propos de Grégoire, c'est que ce que permet la loi Pacte, c'est-à-dire à partir de maintenant ou très prochainement, d'inscrire des contrats, des fonds de private equity dans des contrats d'assurance vie français ou dans de la retraite complémentaire, va permettre d'aligner l'épargne des Français avec cette durée longue de nos instruments, ce qui était impossible jusqu'à maintenant, sauf à aller chercher des contrats d'assurance vie au Luxembourg, ce qui n'est possible que pour des patrimoines très importants. Donc c'est vraiment très intéressant parce que jusqu'à maintenant, les gestionnaires d'actifs, ceux que les petits porteurs, les petits épargnants vont consulter, et en tout cas il faut le leur conseiller pour investir leur épargne, ne leur conseillaient pas, ne conseillaient pas au grand public d'aller vers le private equity considéré d'une durée trop longue. Et donc, les gestionnaires considéraient...
Bah oui, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt des investissements de 4 ans, 5 ans.
Mais... Oui, voire plus. Oui. 10 ans, la durée de nos fonds, c'est 10 ans. Mmh. Mais préparer une retraite, c'est effectivement 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et donc, on a ce temps-là. Donc, ça fait énormément de sens d'aller chercher des instruments comme les autres, dont les rendements sont très significativement supérieurs aux autres classes d'actifs.
Mmh. Je vous donne un exemple concret. Posez-vous la question, et que quand vos auditeurs se posent la question, quand est-ce que est la dernière fois qu'on leur a proposé l'opportunité d'investir par leur banque ou par leur assureur dans du capital investissement? Mm-hmm. La plupart d'entre eux, à part s'ils s'appellent Bernard Arnault ou François Pinault, mm-hmm. ne se sont jamais vus proposer ce genre d'opportunité. Mm-hmm. Or, le capital investissement, c'est quand même la classe d'actifs qui est à la fois la moins volatile et celle qui rapporte le plus. Donc on est bien dans un enjeu de démocratisation du capital investissement. Je prends deux exemples concrets.
Ouais.
Sur le PER, qui est un produit donc en gestion pilotée par défaut, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 50% d'actifs en économie réelle. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir 50% qui vont pouvoir travailler en générant du 10%. Ben, la capacité à sortir du 5 ou 6% de performance sur 30 ans, vous verrez, ça fait une énorme différence. Je prends un deuxième exemple. On avait été les premiers... On avait travaillé avec le ministre de l'économie de l'époque, a lancé les contrats d'assurance vie en unité de compte, en capital investissement.
Ouais,
on avait
marché,
lancé ça.
D'accord, ouais.
Pas tout à fait.
Bah,
vous allez voir.
Ouais.
On avait lancé ça avec AXA.
Ouais.
On a maintenant 6 assureurs. Le dernier d'entre eux, c'est Swiss Life, Crédit Agricole, etc. Mais jusqu'à présent, c'était limité à 10%. Parce que le législateur s'était dit, il ne faut pas faire trop de capital investissement, c'est risqué.
Ouais.
Mais maintenant, ce qui est risqué, c'est de laisser son argent en monétaire parce que ça coûte de l'argent. Et là, maintenant, le législateur, a priori, c'est ce qu'on attend comme confirmation, ça va être porté à 100%. Vous allez pouvoir mettre 100% de vos unités de compte dans votre contrat d'assurance vie en capital investissement. Mais ça, ça permet d'envoyer de l'épargne longue et vers l'investissement des
communes. Ça, on est d'accord. Moi, je me mets du point de vue... Vous avez complètement votre démonstration. Et vos démonstrations sont totalement exactes. Moi, je suis de l'autre côté, d'accord?
Oui.
Donc, je vais investir dans ce fonds.
Oui.
OK. Et je me dis, d'abord peut-être que mon gérant, comment il peut savoir ce que valent ces entreprises, parce qu'il n'a pas les moyens lui-même, il n'a même pas les moyens à côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'étudier, de regarder ces entreprises. Parce que des entreprises, vous êtes mieux placés, il y a des super pépites, puis il y en a quand même qui se cassent la gueule. Mmh. Et qu'est-ce qui dit qu'un fonds comme les vôtres, vous n'allez pas mettre dans ce contrat toutes les planches pourries et puis vous gardez les meilleures pour vous?
Non, ils sélectionnent des équipes en fait. Ouais. Ils ont au sein de leur structure des équipes qui sont spécialisées dans le choix des équipes de private equity et elles font a priori confiance dans le fait que l'équipe de Grégoire, notre équipe peut-être, procédera à des investissements de qualité.
Ouais, je vous prends un exemple concret. Hmm. On avait lancé un véhicule en 2009 qui était une période de troublée. On a fait 11 investissements. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a été multiplié par 3 en moyenne. Ces 11 investissements ont généré un TRI brut de 20%. Voilà. Et les gens, et c'est un multiple moyen de 2. Ben, ça, c'est la diversification et c'est le track record. Donc ce sont les équipes et le track record. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des noms, il y a des marques qui se créent. Et c'est comme ça que aussi les gens sont amenés à être sélectionnés et à être intégrés dans les enveloppes, comme ça a été le cas dans l'assurance vie ou comme ça le sera dans le domaine de l'épargne retraite. Puisque par exemple, Amundi a annoncé vendredi dernier qu'on allait faire partie de l'offre d'Amundi en matière d'épargne retraite. Et donc, il y aura d'autres annonces.
Ah, c'est donc... ça, donc le gérant d'Amundi, donc moi je vais chez Amundi, et qui ensuite va vous conseiller d'investir dans NextStage
dans l'épargne retraite d'Amundi,
ou dans Alter Equity.
Ils
sont investisseurs chez nous aussi.
Voilà, ouais. Je suis sûr qu'ils mettront Fanny et ses équipes là-dedans. Et donc, c'est ça, mais de même que quand vous abonnez à Netflix ou à Canal, vous avez le choix avec plusieurs solutions et vous choisissez celle qui vous intéresse. Et donc, on est quand même dans une mutation du marché. Ouais,
c'est très importante, en fait. Il y a une sorte de différents phénomènes qui montrent qu'on est vraiment en train de transformer complètement l'épargne.
Oui, ça montre à la fois la pertinence de cette réforme et l'enjeu que ça constitue. Mmh. Et en termes de rehaussement de la performance de l'épargne des Français, et aussi en termes d'enjeux pour renforcer notre souveraineté et faire émerger des champions qui ne soient pas forcément soit chinois, soit américains, contre lesquels il n'y a rien à avoir, mais c'est pas mal s'il y a des champions français.
Fanny Picard, oui.
Absolument. Oui, je crois que les cinq plus importants gestionnaires gèrent aujourd'hui 20% des actifs mondiaux et on considère qu'à horizon 20 ans, ça représentera 40%. Oui. Et ce ne sont pas des gestionnaires français. Ce sont des fonds de pension, notamment américains, ou des fonds souverains asiatiques ou des pays du Golfe. Oui. Donc c'est très important de drainer l'épargne des Français vers le financement de l'économie française et de ne pas être, comme le disait...
Oui, là, on a l'impression qu'il y a l'étape qui est franchie quand même. Là.
Le shift, c'est je ne mets pas mon épargne en obligation, je la mets en action. Et s'il est investi en action correctement à long terme, là ça rapporte beaucoup plus et c'est beaucoup moins risqué que de perdre moins 1% par an.
Oui, cela dit, il y a un gros concurrent qui s'appelle le déficit de l'État. En l'occurrence, je crois que l'État va émettre tous les records, quoi. C'est 230 milliards, je crois, d'émissions. Et ça peut concurrencer, en l'occurrence, les investissements dans des start-up. Hein, donc,
c'est ce que ça a fait historiquement, en tout cas. C'est vrai que l'épargne des Français était plutôt drainée vers le financement du budget de l'État.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny Picard, Alter Equity. Et merci beaucoup, Grégoire Santil, Nextage. Ben voilà, ça fait des opportunités d'investissement. Et merci de votre démonstration. Je crois qu'on a mieux compris. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve lundi et puis dimanche sur BFM TV, BFM Politique. Très bonne journée.